Jean Lambert, ex-président de la Chambre des notaires, qui siège encore au comité sur les soins de fin de vie. Jean Lambert, donc, nous parlons encore une fois de ces soins de fin de vie. C'est une dernière aujourd'hui. Bonjour Jean, d'abord.
Oui, alors bonjour Clotilde. Hein? Donc, c'est le dernier volet.
C'est le dernier volet.
Sur cette loi sur les soins de fin de vie, oui.
Et là, aujourd'hui, vous allez aborder pour nous les directives médicales anticipées. C'est
oui.
bien ça.
Bien sûr.
Alors, qu'est-ce que c'est? Que sont-elles, ces
directives
médicales?
Alors, ce sont des instructions
médicales?
Qu'une personne donne par écrit concernant des soins qu'on pourrait lui proposer à un moment où elle ne sera plus en position de donner un consentement. Donc, d'où le mot anticipé, donc directive médicale anticipée. Alors, cette personne dit, si à un moment donné, je ne suis pas en mesure de donner un consentement, voici ce que je veux.
OK.
Alors, ça peut être « j'accepte » ou « je refuse un soin », par exemple.
D'accord.
Puisque la loi reconnaît qu'à toute personne, le droit de refuser des soins, même si ce refus entraîne la mort.
C'est pour cela, d'ailleurs, que finalement, ça a été inséré dans la loi sur les soins de fin de vie, ces directives médicales anticipées, c'est bien ça.
Oui, ben en fait, on les a insérées dans la loi parce que lorsque la commission « Mourir dans la dignité » a circulé au Québec pour entendre les gens avant que le projet de loi soit déposé, donc on recule il y a quelques années, ce qui a été porté à la connaissance de la commission par plusieurs intervenants, c'est que les médecins ne respectaient pas ce qu'on appelle les testaments de vie, testaments biologiques, les directives données dans un mandat en prévision d'inaptitude ou tout autre document. Et d'ailleurs, les médecins sont venus en commission pour dire « nous, on ne se sent pas liés ». Et c'est assez curieux parce que le Code civil reconnaît le droit à toute personne d'accepter ou de refuser un soin. Alors, c'était assez paradoxal. Donc, la commission, dans son rapport, a invité le législateur, justement, à intervenir et à officialiser ces directives en contraignant le corps médical à les respecter.
Alors, Jean Lambert, est-ce que tous les soins qui peuvent être administrés à une personne peuvent être couverts par ces directives?
Alors, encore une fois, c'est une recommandation de la commission, parce que les médecins ont dit, si ces directives couvrent toute la gamme, toute la largeur de tous les soins qui peuvent être administrés à une personne, on a deux problèmes. Premièrement, il va risquer d'avoir des problèmes d'interprétation et aussi les gens seront appelés à donner un consentement anticipé sans avoir toute l'information. Alors, pour que ça ne parte pas dans toutes les directions, la commission a demandé aux législateurs de baliser et de restreindre sur certains soins stratégiques. Et effectivement, la loi a retenu trois situations. Une première situation de fin de vie avec atteinte neurodégénérative. Alors, c'est une personne qui souffre d'une maladie grave et incurable et qui la rend incapable de consentir à un moment donné. Et à l'intérieur de cette situation, il y a cinq soins où la personne dit « je consens ou je refuse » par anticipation. Par exemple, la réanimation cardio-respiratoire.
Okay,
est-ce que je refuse ou je consens? La ventilation assistée, donc avec un appareil respiratoire assisté, est-ce que je veux ou non? Est-ce que je consens ou refuse de recevoir un traitement de dialyse?
Pour les reins, bien sûr.
Également, l'alimentation forcée ou artificielle, oui ou non? Je veux ou je ne veux pas? Et même principe pour l'hydratation forcée ou artificielle. Alors, donc, on voit que ce sont des soins assez stratégiques qui ont une incidence directe sur la continuation de la vie. Seconde situation, atteinte sévère et irréversible des fonctions cognitives. Alors ici, on est en présence d'une personne qui est dans un état comateux ou végétatif. Encore une fois, on dit oui ou non à la respiration, ventilation assistée, réanimation cardiovasculaire, traitement de dialyse, alimentation forcée ou hydratation forcée ou artificielle. Et troisième situation, c'est l'atteinte sévère et irréversible des fonctions cognitives résultant d'un état de démence. On pense ici évidemment à l'Alzheimer. Encore une fois, les cinq situations, réanimation cardio vasculaire, ventilation assistée, dialyse, alimentation forcée et hydratation forcée ou artificielle. Donc, les directives médicales anticipées, c'est ça. Mm-hmm. Et pas plus.
Mm-hmm. Mais peut-être qu'on s'étonne, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qu'on s'étonne qu'on les ait limités à 3 situations précises.
Alors donc, on revient encore au vœu que la commission Mourir dans la dignité avait exprimé à l'effet que ce soit balisé et restreint à certains soins stratégiques pour effectivement que les gens puissent obtenir, avant d'exprimer un consentement ou un refus, d'avoir l'information nécessaire, parce que la loi présume, lorsqu'une personne rédige ses directives médicales anticipées, elle présume qu'elle a toute l'information. Alors, en restreignant à ces 3 situations et à ces 5 soins précis, on espère qu'au moins ça réduit la gamme ça permet aux gens d'avoir une information plus pointue.
Mm-hmm, mm-hmm. Concrètement, comment est-ce qu'on établit ces DMA, donc DMA pour directive médicale anticipée, je le dis pour les gens qui viendraient peut-être de se joindre à nous?
Alors, il y a 2 façons, nous dit l'article 52 de la loi, c'est soit par acte notarié ou un écrit devant 2 témoins sur un formulaire prescrit par le ministre. Alors, ça se passe comment? D'abord, si on va chez son notaire, c'est pas trop compliqué. Il a tout ce qu'il faut. Alors, donc, il explique. Il a le formulaire qui correspond au registre dont on parlera tantôt. Et donc, ça se passe sans trop de difficultés. La personne doit toutefois au préalable s'être informée minimalement sur les conséquences, par exemple, d'un refus. Parce que c'est surtout de refus, finalement, en arrière-plan. Par contre, pour une personne qui veut le faire elle-même, alors elle communique à la régie de l'assurance maladie et demande, soit par téléphone ou en ligne, et demande de recevoir un formulaire. On lui fait un formulaire personnalisé à partir de son numéro d'assurance maladie. Elle complète, fait signer 2 témoins qui n'ont pas besoin, par contre, de voir ce qu'il y a dans les directives. Il s'agit juste qu'ils soient présents lors de la signature.
Okay.
Et à ce moment-là, le formulaire est soit conservé par la personne, on va voir un peu tantôt, ou expédié à la régie.
Donc ça, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on ne peut absolument pas rédiger ça sur un petit coin de papier.
Non.
Ça ne sera pas tenu en compte.
Non, absolument pas. Et d'ailleurs, la loi est formelle, ces directives ne peuvent même pas être mises dans un mandat en prévision d'inaptitude, qui est quand même un document assez officiel. Donc, c'est très distinct, c'est précis, c'est ou l'acte notarié ou le formulaire du ministre.
Bon, maintenant, de quelle façon le corps médical peut-il avoir connaissance de ces DMA?
La moins bonne façon, c'est en conservant ses papiers personnels et en disant à quelqu'un de la famille, s'il m'arrive quelque chose, allez là et vous allez trouver mes directives. Bon, ça, c'est pas conseillé, mais c'est une façon. Mieux, évidemment, c'est de faire remise soit à son médecin, ou encore, lorsqu'on est admis dans un hôpital, dans un établissement, là, des remèdes pour qu'on les mette au dossier.
Directement.
Donc là, le médecin traitant pourra, s'il s'aperçoit que la personne perd ses facultés à un moment donné, il pourra consulter le document au dossier.
Bien sûr.
Mieux, évidemment, c'est l'inscription au registre des directives médicales anticipées sous la responsabilité de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Donc, une fois rédigé, soit le notaire ou soit la personne elle-même, si elle a requis son formulaire, comme on mentionnait tantôt. Donc, le notaire sur demande de la personne ou la personne qui décide de l'expédier à la régie, à ce moment-là, les directives vont apparaître à l'écran et le médecin, qui n'en trouve pas dans le dossier, pourra consulter le dossier à partir du numéro d'assurance maladie.
D'accord.
Et voir que oui, effectivement, on en a.
Dites-moi, à supposer que ça m'arrive et que je fais tout ce qu'il faut, je remplis mon formulaire, il est maintenant enregistré, donc dans le fameux registre et tout, et je décide de changer d'avis. Est-ce que je peux révoquer Si oui, comment je peux faire ça?
Oui, on pourra aussi parler de modification, mais si on est précis sur la révocation, alors si votre formulaire a été envoyé à la régie, il y a un formulaire que vous devez obtenir de la régie, un formulaire de révocation précis, que vous complétez, encore toujours en présence de témoins, et expédié à la régie. Cependant, la loi prévoit qu'en cas d'urgence, une personne peut révoquer verbalement ses directives. Donc, vous arrivez à l'hôpital, vous êtes dans un état difficile, vous vous rappelez que vous avez fait des directives médicales anticipées, mais vous avez changé d'idée. Mmh. Alors, vous pouvez dire, je les révoque, prenez note que je les révoque. Alors, donc, ça aussi, c'est une révocation qui est valable.
D'accord. Maintenant, est-ce qu'on a fait...
Modifier, parce que sans les révoquer, d'accord. On peut vouloir les modifier.
D'accord.
Alors, il y a deux façons. La meilleure, évidemment, c'est d'en faire d'autres. La loi dit d'ailleurs, on doit refaire des nouvelles directives pour modifier les anciennes. Si on a porté les premières au registre, bien évidemment, il est tout à fait indiqué d'expédier à la régie pour son registre les directives modifiées. Mais encore une fois, on peut toujours, en cas d'urgence, les modifier verbalement. Alors, évidemment, des directives anticipées, c'est dans le cas où on serait en situation d'inaptitude à consentir. Mais si je suis encore capable de consentir, je peux certainement dire, écoutez, vous ignorez les directives, un peu comme on parlait pour la révocation.
D'accord.
Voici les nouvelles que je veux faire et là, je les écris.
Parfait. Mais écoutez, Jean, est-ce qu'on a fait le tour?
Il y a beaucoup de détails dans lesquels je pense que c'était peut-être pas... Ça aurait alourdi la présentation. Mais je pense que l'essentiel, on l'a couvert. Je pense que les gens peuvent se tirer bien d'affaires et comprendre mieux cette loi.
Eh bien, nous vous en remercions beaucoup, Jean Lambert, et peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas, si vous avez envie...
On aura peut-être un autre sujet.
Si vous avez envie, c'est ça. Si vous passez devant le studio et vous voyez de la lumière, ne vous gênez surtout pas pour rentrer.
On cogne à la porte.
On cogne à la porte.
Pour ne pas dire au micro.
Jean Lambert, merci infiniment. Bonne fin de journée.
C'était mon plaisir.